Bonjour à toutes et à tous. Si vous voulez bien, je commencerai par un tout petit mot de témoignage. Quand on a la responsabilité d'apporter la parole de Dieu et qu'on voit que le thème est libre, on a toujours cette question de se dire, bon, est-ce que le choix que je vais faire est celui qui convient à l'Église aujourd'hui? Je dois confesser qu'en plus de 30 ans de prédication maintenant, j'ai très souvent été encouragé par la présidence qui montre que Dieu conduit toute chose dans un culte. Et quand Antoine a commencé en disant « je vais vous parler de la distanciation », je me suis dit « tiens, est-ce qu'aujourd'hui ce sera une exception ?» Et puis tout de suite, il a changé en disant « non, non, Dieu est un Dieu proche ». Eh bien, le thème que j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter, c'est le thème du retour du Jésus. Et je vous invite à commencer par une lecture dans Jean 14. « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans ce texte, Jésus prépare les disciples à son départ. Il sait que le moment du sacrifice à la croix approche et il veut les rassurer et leur expliquer que sa mort à la croix ne sera pas la fin de leur espérance, mais au contraire, une étape vers la victoire finale. Il retourne auprès du Père pour leur préparer une place avant de revenir les chercher. Lors de sa première venue, Jésus est venu pour sauver le monde, nous est-il dit dans Jean 3, 17. Pour donner la vie et la donner en abondance. Aujourd'hui, il est auprès du Père, il intercède pour les croyants. Paul dit dans l'Épître aux Romains, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. 1 Jean nous dit, il est notre avocat lorsque nous péchons. Il règne au-dessus de toute puissance. Et l'étape suivante sera son retour pour nous prendre avec lui. On trouve plus de 300 mentions dans le Nouveau Testament de la seconde venue de Jésus. C'est dire l'importance de cet événement. Lorsque vous lisez dans la parole les expressions telles « le jour du Seigneur », « le jour de Dieu », le dernier jour, le moment de la fin, la révélation de la gloire de Jésus-Christ. Tous ces termes-là nous parlent du retour de Jésus-Christ. Que savons-nous de l'événement en lui-même? C'est un point que je ne développerai pas beaucoup parce qu'il n'y a pas unanimité des théologiens sur ce sujet et on trouve des interprétations bien différentes des textes de référence. Il y a des choses qui sont néanmoins indiscutables. Il sera soudain, Matthieu 24, 27 le compare à un éclair. Il sera imprévisible. Et je vous lirai quelques versets de Matthieu 24 où il est fait une comparaison avec le déluge. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Impossible de prévoir le moment de la venue de Jésus. Nous vivons, et peut-être demain, ce signe se produira. Et Jésus ajoute à la suite de cette lecture au verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Et je me dis que c'est une grande sagesse de la part de Dieu que de nous avoir caché cela, parce que, imaginez, déjà les premiers chrétiens s'imaginaient que ce retour serait proche. Et si on avait eu une date fixe, est-ce que notre réaction naturelle n'aurait pas été de dire « Oh ben, on a du temps. On a le temps de se préparer. » il n'y a pas urgence. En procédant comme cela, Dieu nous invite à être toujours prêts. À ceux qui voudraient avoir une description plus précise, eh bien, acte 1, verset 11, nous dit que eh bien, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, c'est juste au moment de l'ascension, il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Quand on parle de simplicité biblique, eh bien là, on a un récit qui nous dit finalement ce dont on a, enfin, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'il va revenir. Alors, il reviendra corporellement, probablement, puisque les gens l'ont vu partir dans un corps, donc s'il revient de la même façon, il sera dans un corps. Il est parti du Mont des Oliviers, donc probablement il reviendra au Mont des Oliviers. Une chose est sûre, c'est que ce retour sera glorieux, triomphal, qu'il sera une démonstration de puissance. Et Apocalypse 1,7 nous dit « Tout œil le verra ». Je ne veux pas entrer dans ces commentaires, mais quand on a entendu des choses sur la venue de Jésus, qui n'aura pas lieu, ou qui aura lieu, qui a déjà eu lieu, etc., la simplicité de ces textes nous aide déjà à voir des vérités toutes simples. Pourquoi Jésus reviendra-t-il? Quand j'ai ouvert ma Bible, à la fin, vous avez des thèmes, hein, le retour de Jésus, alors il y en a toute une série de références, on peut les regrouper, je trouve, en deux catégories. Je citerai rapidement les premières pour m'attarder un peu plus sur les secondes. Les premières nous parlent du retour de Jésus pour Jésus lui-même. Qu'est-ce que ça signifie pour lui? Il sera glorifié par les siens. Il viendra pour remettre la royauté au Père et pour régner dans le monde. Je m'attarderai davantage sur les conséquences du retour de Jésus pour nous. C'est lors de son retour que se réaliseront pleinement les promesses qu'il nous a faites, et j'en ai retenu quelques-unes des béatitudes de Matthieu 5. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alors certes, ces promesses sont déjà réalisées en partie. Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit, qu'on appelle le Consolateur. À Philippe, il dit qu'il leur a montré le Père. Il nous a purifiés en portant nos péchés à la croix. Mais tout cela n'est qu'un avant-goût de ce qui sera pleinement réalisé lors du retour de Jésus. « Je reviendrai, dit-il, et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le retour de Jésus est parfois comparé à des noces. Nous vivons aujourd'hui un temps de fiançailles, un temps de préparation au mariage, et en un certain sens, si comme dans l'imagerie populaire, on imagine que Jésus est aux cieux et que nous nous sommes ici, il est encore loin. Mais la présidence nous a bien expliqué qu'il est en même temps très près. Lors de son retour, Jésus nous prendra avec lui et nous serons consolés de toutes nos afflictions. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce texte nous parle de croyants, encore imparfaits, qui seront enlevés pour vivre l'éternité auprès de Jésus, dans la présence du Père. C'est une promesse que Jésus a faite, et donc un réconfort. Le jour venu, il nous emmènera avec lui. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, Paul se désole d'être incapable de faire le bien qu'il veut faire. Et il s'écrit, mais qui me délivrera du corps de cette mort? 1 Corinthiens 15, 52 nous répond, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Si nous, nous sommes incapables de nous changer complètement, l'Esprit de Dieu a commencé à nous changer et là, nous serons réellement transformés, ressuscités avec un corps incorruptible. 1 Jean 3, verset 2, Myriam nous l'a lu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et Antoine nous rappelait que normalement, on n'a pas le droit de voir Dieu. Nous verrons Dieu tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Et je me dis, comment imaginer que Satan puisse encore nous tourmenter lorsque nous serons dans la présence de Jésus. Nous serons enfin délivrés de son emprise. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. L'une des choses que Jésus fera lors de son retour, c'est qu'il jugera les vivants et les morts. Et ici, je ferai une lecture un peu plus longue dans Matthieu 25 pour ceux qui veulent suivre, à compter du verset 31. Matthieu 25, donc, à compter du verset 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. » Alors les justes demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire, ou étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu, ou malade ou prisonnier, et sommes-nous venus te rendre visite ?» Ça veut dire qu'on n'est pas toujours conscient du bien qu'on fait. Et le roi leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. « Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel, préparé par le diable et ses anges. » Et j'arrêterai ici la lecture, mais Jésus va reprendre point par point tout le bien qu'on peut faire pour reprocher aux autres tout ce bien-là. Vous ne l'avez pas fait aux hommes, et donc c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Pour reprendre une parabole de Jésus, son retour, ce sera l'occasion de séparer l'ivraie du bon grain. Ce n'est pas encore le jour, mais ce jour-là, les gens qui ont soif de justice et croient qu'on en voit beaucoup des injustices dans notre monde, ce jour-là, le bon grain sera séparé de l'ivraie. Les croyants seront appelés auprès du Père et les incroyants sont condamnés au châtiment éternel. Apocalypse 20, verset 15, nous dit « Quiconque n'a pas été trouvé dans le livre de vie sera jeté dans l'étang de feu. » Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est également lors du retour de Jésus que chaque croyant se verra remettre sa récompense. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps, nous dit 2 Corinthiens 5, verset 10. Le tribunal, le jugement dont il est question ici, ce n'est pas le jugement de nos péchés qui a déjà eu lieu à la croix, du moins pour ceux qui les confessent, qui s'en repentent et qui croient que Jésus est mort par leur faute. Le tribunal dont il s'agit ici, c'est celui où nos œuvres seront jugées. Car la volonté de Dieu, nous est-il dit dans Éphésiens 2, verset 10, c'est que nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et vous voyez que dans ce texte de Matthieu, vous rappelez ici, les œuvres, c'est ce que nous faisons. Alors, il n'est pas question ici de prêcher le salut par les œuvres. On est suffisamment clair sur ce thème-là. Mais on ne peut pas non plus ne pas les prendre en considération pour la récompense. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Les trésors, ce ne sont pas ceux qu'on peut vouloir acquérir sur cette terre, c'est ceux que nous pouvons gagner auprès de Dieu par le bien que nous faisons. Dieu attend de nous que nous pratiquions de bonnes œuvres qui seront jugées lors du retour de Jésus. Une lecture encore dans 1 Corinthiens 3. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Peut-être vous avez vu comme moi, il y a quelques semaines, là, ces images des immenses incendies aux États-Unis, où on filmait des gens qui nous disaient bon, « on a juste eu le temps de se sauver ». Puis voilà, là où on est. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour l'éternité? Être sauvés comme à travers d'un feu? Je le redis, il ne faut pas confondre le salut qui a été définitivement acquis par Jésus à la croix et la récompense qui sera fonction de nos œuvres. Cette récompense, Paul la compare à une couronne incorruptible et il nous invite à veiller à ne pas la perdre. Alors cela nous amène au point suivant. Eh bien, aujourd'hui, que faire en attendant le retour du Seigneur? Nous avons déjà eu l'occasion de voir que Jésus attend de nous, que Dieu attend de nous que nous pratiquions de bonnes œuvres. Et il dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Le premier commandement de Dieu a été résumé ainsi par Jésus, aimez-vous les uns les autres. Et l'apôtre Jean nous dit clairement comment savoir si notre comportement plaît à Dieu. 1 Jean 3 encore, la suite de la lecture précédente, les versets 15 à 20. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Je me suis interrogé sur ce qu'il fallait comprendre dans cette fin de verset. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et c'est mon interprétation, vous êtes libre de ne pas la partager. Je pense que là, Dieu mesure que nous ne sommes pas capables de faire tout le bien que nous voulons faire et que si à certains moments nous nous sentons repris, lui lit quand même vraiment dans les cœurs et voit ce que nous essayons de faire. Et quand il nous dit que Dieu est plus grand que notre cœur, je crois qu'il nous dit qu'il voit l'intention et pas forcément nos échecs. Aimer en action et en vérité. C'est aussi ce que Paul dit aux Galates. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. À propos des œuvres, Jacques dit dans son épître au chapitre 2, versets 14 à 18, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par les œuvres. » Est-ce qu'on ne dit pas que c'est au fruit qu'on juge l'arbre ? On dit aussi souvent que la foi et les œuvres sont deux faces d'une même médaille. Et j'ai imaginé le retour de Jésus avec les croyants qui ont une médaille au cou. La première face qu'on voit, c'est la foi. Jésus leur dit « Entrez », puis on retourne la médaille et là, on passe au poste récompense. C'est une image qui vaut ce qu'elle vaut. On est entré par la foi, mais tout ne s'arrête pas là. Que faire en attendant le retour de Jésus ? Jésus lui-même, à l'aide de paraboles, nous a dit ce qu'il attendait d'un croyant. Et soyez assurés que je me sens autant repris que vous quand je lis ces choses. La parabole des 10 vierges nous invite à être prévoyants et à préparer notre rencontre avec Jésus pour ne pas être pris au dépourvu le moment venu. Rappelons-nous que nous ne connaissons ni le moment ni l'heure. Il dira dans l'évangile de Marc, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. » La parabole des talents nous invite à mettre en œuvre les dons que nous avons reçus du Seigneur. Rappelons-nous que chaque serviteur a reçu une récompense proportionnelle à ce qui lui avait été confié et qu'il avait fait fructifier. Celui qui était resté sans rien faire et qui avait simplement caché le talent pour le rendre a été qualifié de serviteur méchant, paresseux. On lui retirait la totalité de ce qui lui avait été confié et le maître commanda même de le jeter dans les ténèbres du dehors. Et cela m'a rappelé le figuier que Jésus avait maudit parce que ce figuier ne portait pas de fruits alors qu'il attendait du fruit. Porter du fruit, c'est vraiment ce que Dieu attend. La parabole des ouvriers de la dernière heure qu'on trouve dans Matthieu 20 nous dit qu'il n'est jamais trop tard pour nous mettre au service de Jésus. Si nous sommes repris en conscience, que nous nous disons que peut-être nous ne nous sommes pas encore vraiment mis au service de Dieu ou pas suffisamment, eh bien cette parabole nous dit qu'il n'est jamais trop tard pour se mettre à l'œuvre, pour faire le bien. La parabole du trésor et de la perle aussi nous dit l'importance de faire les bons choix. Travailler pour ce qui en vaut la peine. Et là, je me dis qu'on a tous besoin de demander à Dieu la force de renoncer à certaines choses qui sont secondaires, qui sont même d'aucune utilité pour l'éternité, car ce ne sont pas les sollicitations ni les tentations qui manquent à notre époque et dans notre monde. Et j'ai lu cette phrase dans un commentaire qui m'a parlé, qui dit « N'aspirons pas seulement lors du retour de Jésus à être délivrés de notre condition présente, mais plutôt à être dans la présence de Dieu, ce qui, comme dit Paul, est de beaucoup le meilleur. » Il y a une différence, à mon sens, entre aspirer à être délivré, parce qu'on voit bien toutes nos limites, toutes les choses dont nous souffrons, et aspirer à être auprès de Dieu et à lui plaire. Enfin, il nous est dit aussi que nous pouvons prier pour hâter sa venue, comme Jean dans l'Apocalypse qui termine en disant « Seigneur, viens bientôt ». En conclusion, je vous laisserai cette parole de l'apôtre Paul en se disant que j'aimerais bien pouvoir prononcer la même quand viendra le jour. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Cette couronne, on peut en déterminer quelques caractéristiques. À l'occasion de son retour, Jésus achèvera son œuvre en nous. Il nous rendra saints, irréprochables, nous donnera un corps incorruptible, et il nous est dit que nous porterons l'image de Christ. Des choses incroyables, 2 Timothée 2, verset 12, nous dit que nous régnerons avec lui. Que notre Seigneur nous aide à lui être fidèle, persévérant, afin que nous puissions, comme Paul, avoir l'assurance de passer l'éternité dans sa présence et de recevoir notre récompense.